l'impact, le vrai, c'est celui que tu as sur de nombreuses personnes ou de nombreuses villes ou autres. Et de toute façon, ce qui m'a toujours animé, c'est de me dire rejoindre des structures où demain ton impact pourra être vraiment sur des milliers de personnes. Et je pense que c'est ce qu'il faut se marteler.
Salut, c'est Maxime et tu écoutes Sonar, le podcast qui t'aide à trouver ton cap face à l'océan des possibles. Aujourd'hui, je reçois Victor Andreau, qui dirige le département Affaires publiques et partenariats de Stuart, la plateforme qui révolutionne le transport de marchandises en ville, notamment pour les commerçants. Avant ça, Victor a fait un passage dans le monde du conseil, mais c'est l'envie de concret et d'être acteur des évolutions de notre société qui l'ont mené chez Stuart, où il travaille maintenant depuis plus de 3 ans, en particulier sur des sujets liés aux travailleurs indépendants, essentiels à l'activité de Stuart. On a donc parlé du passage entre ces deux mondes et de son choix de se lancer chez Stuart avec l'idée d'avoir un impact sur le monde qui l'entoure. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une très bonne écoute.
Salut Victor.
Salut Maxime.
Merci de me recevoir dans les locaux de Stuart pour cet épisode de Sonar. Pour commencer le podcast, est-ce que tu pourrais nous présenter Stuart en quelques mots ?
Stuart en quelques mots, oui, je vais essayer d'accepter ce challenge. En fait, Stuart, c'est une startup française qui est née en 2015 et qui est née d'un double constat. Le premier, c'est l'explosion du e-commerce en France, en Europe, partout. Et le deuxième constat, c'est l'impact environnemental du e-commerce, particulièrement dans les villes, puisque la moitié des colis sont envoyés dans les villes. Et puisqu'aujourd'hui, le transport de marchandises représente 30% des émissions de CO2, donc c'est un vrai sujet, et les villes du coup se posent vraiment la question de qu'est-ce qu'elles font pour encadrer et limiter le transport de marchandises. Il y a des villes comme Strasbourg qui se sont fermées aux véhicules thermiques à la livraison depuis 2018, et ça crée des problèmes ensuite énormes. Du coup, Stuart est né de ces deux constats. Il y a une explosion du transport de marchandises, particulièrement dans les zones urbaines, et les villes doivent respirer, et il faut pas faire n'importe quoi d'un point de vue environnemental. D'accord? Du coup, Stuart, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de mise en relation entre, d'un côté, des donneurs d'ordre qui sont des commerçants et des e-commerçants, qui sont des professionnels, donc entreprises de toute taille, tout secteur confondu, et d'un autre, des flottes de coursiers géolocalisés qui sont essentiellement à vélo et à vélo cargo. Aujourd'hui, ils représentent 80% de la flotte Stuart, les vélos et les vélos cargo, mais également des flottes de vannes électriques, de poids lourds GNV et de piétons pour de la livraison de grande distribution. Donc en fait, voilà, Stuart, plateforme technologique pour de la mise en relation, pour de la livraison dans l'heure ou sur créneau, entre des flottes de coursiers géolocalisés et des donneurs d'ordre professionnels.
Okay. C'est les coursiers avec les gros sacs bleus qu'on voit dans les villes sur les vélos.
Effectivement, les sacs de Stuart sont bleus.
Ouais, d'accord. Tout à fait. Donc c'est une start-up. Est-ce que c'était clair pour toi, en sortant d'école, de vouloir rejoindre une entreprise de ce type-là ?
Non, c'était absolument pas clair. Pour être tout à fait honnête, moi j'ai fait mon apprentissage en conseil quand j'étais à l'ESSEC. Et d'ailleurs, j'avais une offre de CDI dans ce cabinet. Et il me manquait 6 mois d'étranger pour être diplômé. 6 mois d'étranger que je suis allé chercher à Madrid. J'avais très envie d'aller vivre un peu dans cette ville. Et dans mon parcours, je n'avais pas eu d'expérience en start-up. Donc je me disais que c'était l'occasion, mais j'avais pas envie d'aller dans une start-up qui venait de sortir une énième application ou autre. J'avais envie d'aller dans une start-up qui changeait un peu les lignes. Et en fait, moi c'est ce que j'ai entrevu chez Stuart dès le début, c'était que c'était au carrefour de plusieurs transformations, la transformation des usages des clients finaux, la transformation du commerce qui adopté de plus en plus, qui se rapprochait de plus en plus du e-commerce dans les fonctionnalités qu'il pouvait proposer. Transformation de la façon dont les marchandises sont transportées dans les villes et enfin transformation des modes de travail, parce que je voyais des milliers d'indépendants, de travailleurs indépendants qui commençaient à se diriger vers les plateformes et j'entrevoyais un petit peu les conséquences qui pouvaient y avoir derrière ça. Mais du coup, j'envisageais pas forcément de rejoindre une startup, j'y suis allé pour l'aventure et en me disant fais le 6 mois, on verra. Et en fait, ce que j'ai senti là-bas, ce que j'ai touché du doigt, m'a fait me dire ok, tu reviens dans cette boîte, là où la croissance est la plus forte. Et du coup, je suis resté en CDI au bureau de Paris. On était à la veille d'ouvrir 3 villes, ce qui me paraissait à l'époque énorme. Je pensais pas du tout que 2 ans plus tard, je serais en face de toi à te dire qu'on en avait ouvert 50 en France. Mais on l'a fait. Et voilà.
Et par rapport à ce que tu dis, ce que tu as touché du doigt là-bas, Donc c'est en partie la mission dont tu m'as parlé un tout petit peu avant, les enjeux dont tu viens de parler. Qu'est-ce que tu as touché du doigt là-bas qui t'a fait dire « je reste chez Stuart »
En vérité, ce que j'ai touché du doigt là-bas, c'était même pas la mission, pour être honnête. Ça, c'est en fait, il y avait les choses que je voyais, que cette boîte pouvait faire, mais la mission, pour moi, elle est venue un petit peu a posteriori, elle est venue quand je suis revenu en France. En revanche, ce que j'ai touché du doigt, c'était des façons de travailler que je n'avais jamais connues auparavant. J'aimais beaucoup la rigueur qu'il pouvait y avoir en conseil, mais j'avais souvent l'impression de jouer un rôle, pour être honnête, et je trouvais qu'il y avait des divergences selon les missions dans lesquelles tu tombais, selon les managers avec qui tu étais. Idem, j'avais fait un stage dans une grande entreprise avant, et en fait, j'aimais cet aspect travail sérieux, exigence intellectuelle, et en même temps univers décontracté où j'avais vraiment en fait enfin l'impression d'être moi-même dans une entreprise, et je me suis dit que ça avait quand même énormément de valeur. Ça m'aurait vraiment inquiété si ça avait été juste décontracté et que derrière il y avait pas vraiment, c'était pas vraiment consistant. En revanche, là, j'étais avec des profils qui avaient fait les meilleures écoles du monde et qui pour autant venaient dans un univers plutôt décontracté.
Qu'est-ce qui faisait que tu te sentais pas vraiment toi-même, sans forcément cracher dans la soupe, parce que j'imagine que t'as aussi appris des choses intéressantes en conseil, mais qu'est-ce qui faisait que tu t'es dit « c'est peut-être pas pour moi ».
Je crache pas dans la soupe, j'ai énormément appris, et en soi j'aimais le métier, et j'aimais la posture, j'aimais plein de choses. C'est juste que je trouvais qu'il y avait des disparités, comme je le disais, et je me posais parfois la question du sens de ce que je faisais. Du sens de la mission que je faisais. C'est pas du tout quelque chose que je veux dévaloriser. Et moi, je conseille vraiment à des étudiants d'avoir une expérience en conseil. Y a pas du tout de problème par rapport à ça. Mais à la fin de la journée, souvent, quand je me retournais sur ce que j'avais fait, j'y trouvais pas forcément de satisfaction. Et en tout cas, il y avait pas grand-chose qui me transcendait, quoi. Et j'essayais toujours de me rappeler pourquoi j'avais rejoint une école de commerce. Chose qui était pas du tout évidente pour moi parce que j'ai un parcours littéraire initialement. J'ai fait une hypocagne et puis une cagne. Et en fait, j'ai décidé de présenter les concours d'école de commerce. Parce que comme je le disais à l'époque, j'avais envie d'agir sur le monde plutôt que de passer ma vie à le commenter. Et du coup, je me disais, où est-ce que t'es au cœur de l'action? Et j'avais pensé qu'en allant faire du conseil, du coup, pour des entreprises, j'allais vraiment être au cœur de l'action, au cœur de la transformation. Je pense que de ce point de vue-là, j'ai eu une légère déception et je me suis dit que j'avais plutôt envie de rejoindre un projet dans lequel il y avait moins de barrières, dans lequel aussi les décisions pouvaient aller plus vite et où tu voyais directement les implications de tes actions. Et pour le coup, j'ai été servi.
L'idée, c'est pas de parler trop de conseils. J'aimerais juste te poser une dernière question sur ton expérience là-bas. Est-ce que tu pourrais parler concrètement d'une mission? Parce que parfois, ça peut être difficile de se représenter les sujets sur lesquels travaillent les consultants. Est-ce qu'il y a une mission dont tu te souviens, qui t'a plu, ou t'as particulièrement appris parce que t'avais peut-être des très bons managers ou parce que le sujet t'intéressait?
J'ai fait 2 ans d'apprentissage, donc 1 an dans l'entreprise en conseil, et j'ai fait 4 missions. J'ai fait une mission d'une transformation d'une direction service client dans un grand groupe média. J'ai fait une mission de transformation d'une direction financière dans un grand groupe de télécommunications. J'ai travaillé pour l'industrie aéronautique également, sur des problématiques de vision RH à horizon 2030. Et je dirais en fait que ce qui m'a le plus intéressé, c'était finalement de travailler sur une proposition commerciale à la toute fin de mes missions chez Accenture, justement sur la vision et la stratégie RH à horizon 2030, parce que je capitalisais sur toutes les missions que j'avais pu faire, qui étaient quand même vraiment empreintes de change management, de gestion de la transformation, etc., pour me dire, en fait, comment à l'échelle d'un groupe et d'une entreprise, on peut porter une vision RH complète, et comment on peut insuffler ces changements.
Ok, super clair. Moi, c'est concret. Pour revenir, pour le coup, à Stuart, tu les as rejoints en 2017, c'est ça ?
Oui, exactement.
À quel moment tu conseillerais à un étudiant de rejoindre une entreprise qui l'intéresse plutôt au début, quand les équipes ne sont pas encore très structurées, en termes de maturité d'entreprise, de ton expérience ?
En fait, tout dépend du profil d'étudiant qu'on est et du profil de personne qu'on est. Moi, je sais que, au fond de moi, je pense pas être véritablement un entrepreneur. J'ai des idées, je sais les exécuter, mais j'ai du mal à me convaincre au quotidien mon projet est super et à me battre pour ça. J'ai beaucoup besoin d'une émulation avec des autres autour de moi et du coup j'aime beaucoup m'entourer et c'est pour ça que je pense que partir sur un projet entrepreneurial j'étais clairement pas prêt à ça en sortie d'ESSEC. Donc ce que j'appréciais chez Stuart, c'est que les premières preuves avaient été faites, mais pour autant rien n'était prouvé. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire qu'il y avait une première version de l'application qui fonctionnait, il y avait déjà quelques clients, il y avait des volumes, pas très importants certes, mais des volumes quand même, il y avait quelques coursiers sur la flotte. Donc en fait, j'arrivais au début de quelque chose, l'avenir n'était pas du tout assuré. En revanche, y avait déjà ce premier travail qui avait été fait, et du coup je savais que j'allais arriver et qu'on allait m'attendre sur des aspects... Un, de consolidation de tout ce qu'on avait fait, et deux, d'aide de cette entreprise pour le passage à l'échelle. Et en fait, moi j'ai rejoint cette entreprise dans le département opération. C'est le département qui est la clé de voûte de toutes les startups qui travaillent avec beaucoup de personnes, en l'occurrence pour nous beaucoup de coursiers, enfin de toutes ces startups qui ont des flux importants, soit de marchandises, soit humains, soit les deux, à gérer. C'est le département opération qui structure tout ça, parce qu'on va vraiment s'occuper de toute la chaîne de valeur, en l'occurrence pour les coursiers, donc depuis l'étape du sourcing, à savoir comment est-ce qu'on va trouver les coursiers qui vont rejoindre la plateforme, à l'étape d'onboarding qui va être quelles sont les différentes étapes de sélection, comment un coursier rejoint véritablement la flotte, à toute la gestion de ce qu'on appelle la fleet life, donc comment je gère et je moniteur la performance à l'échelle d'une ville ou à l'échelle des coursiers, comment je mets en place un système de qualité. Ensuite, il y a tout un pan administratif, comment je m'assure que tous mes processus soient automatisés pour des actions qui reviennent chaque semaine, comme le versement du chiffre d'affaires des coursiers. Ça paraît tout simple, mais en réalité, c'est complexe. Comment je m'assure de mettre en sorte des mécanismes financiers, comment je détermine en fait quel est le chiffre d'affaires des coursiers pour qu'on soit une plateforme compétitive, pour qu'il soit intéressant pour les coursiers de travailler avec Stuart et pour que j'ai toujours sur la route, à un endroit précis, à un moment précis, l'offre suffisante de coursiers pour absorber la demande que j'attends. Les opérations, c'est tout ça. Donc rejoindre ce département, c'était dans le but de se dire... On a quelques centaines de livraisons par semaine, on est dans deux villes, dans un an on sera potentiellement dans 15 villes, comment j'arrive à passer de l'un à l'autre ? Et ça a été passionnant.
Est-ce que la réalité d'un département opération dans une startup comme Stuart, c'est d'avoir tous ces aspects-là dont tu définis, mais d'être très préoccupé par la gestion au quotidien, d'être un peu un pompier, et de systématiquement devoir revenir à des enjeux très opérationnel et très terrain, entre les tâches qui peuvent être réfléchir effectivement au statut administratif des coursiers, réfléchir à la chaîne de valeur, etc. Est-ce que c'est ça la réalité des ops ?
Je suis assez nuancé là-dessus. La réalité, c'est que c'est vraiment un travail qui est protéiforme et qui va être une bonne alliance entre, d'un côté, un aspect très analytique. Toutes les décisions qu'on prend sont vraiment data-driven, et je reviendrai là-dessus, bientôt. Un aspect très process aussi, il faut savoir construire des process et se dire comment je fais les choses le plus intelligemment possible pour justement que je sois capable d'absorber une croissance et d'absorber une croissance assez effrénée d'ailleurs. D'une connaissance du terrain, ça c'est très important en fait. Je pense qu'un département opération qui se casserait la figure, ce serait un département opération qui serait une tour d'ivoire. Pour le coup, chez nous, la connaissance du terrain est hyper importante. Quand je dis connaissance du terrain, c'est proximité avec les coursiers, ses connaissances des opérations. Et chez nous, même quelqu'un qui est dans le département opérations en tant que data analyst va nécessairement faire des rides lui-même, va connaître vraiment ce qu'est l'activité de coursier, et surtout va faire des onboarding coursiers. Donc très concrètement, c'est l'espace où on accueille les coursiers et où on les informe des dernières modalités avant qu'ils rejoignent la plateforme. Donc en fait, et ça c'est incarné chez Stuart par le directeur des opérations, qui s'appelle Victor Pelletier, qui est quelqu'un de vraiment formidable là-dessus, qui est à la fois brillant d'un point de vue analytique et qui n'a jamais perdu cette connaissance du terrain et surtout cette nécessité de toujours connaître le terrain, de toujours recueillir les feedbacks des coursiers et en fait d'être une plateforme à visage humain parce que c'est quand même un métier qui est très désincarné, où les coursiers sont seuls sur un vélo derrière leur application et du coup il y a vraiment ce challenge de maintenir un lien et de rester humain même quand tu grandis.
Mais t'as raison de le signaler, c'est pas forcément quelque chose qu'on sait, cet aspect proximité avec toutes les personnes de l'entreprise qui sont impliquées dans la relation avec eux. S'agissant justement des personnes qui travaillent autour de toi, quels sont les profils qui t'entourent? Stuart est une entreprise française mais aussi internationale. Est-ce que autour de toi il y a beaucoup d'internationaux? Quelle est la langue de travail? Est-ce que c'est très fidèle à l'idée qu'on peut se faire d'une start-up avant d'y rentrer?
Ouais. Alors Stuart, donc déjà c'est une start-up qui a été créée en 2015. Maintenant si on regarde nos volumes, on n'est plus vraiment une start-up hein. En termes de volume, on est largement à des niveaux d'entreprises de la place parisienne comme Blablacar ou Doctolib, enfin en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc c'est plus vraiment une start-up, c'est une bonne grosse start-up.
Une scale-up,
si on veut, ouais. Qui a été, du coup, on fait partie du groupe La Poste depuis 2017. On est filiale à 100% de Géopost, donc du groupe La Poste. Donc voilà, ça c'est simplement pour préciser cet aspect-là. Et moi j'ai rejoint Stuart en me disant je rejoins une start-up. 3 mois plus tard, on était racheté par le groupe La Poste. Et là, au début, j'ai vécu ça pas comme une mauvaise nouvelle, mais en tout cas comme une source d'inquiétude en me disant bon, c'est quand même un mastodonte. Est-ce qu'on va pas être absorbé? Est-ce qu'on va pas perdre notre identité? C'était vraiment des éléments qui, je pense, ont été des sources de questions pour pas mal de personnes. Et en fait, ça s'est très bien passé. Juste, on a pu intégrer un réseau d'autres entreprises. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec Chronopost, avec Pickup, etc., qui sont des sociétés sœurs que tout le monde connaît et qui nous font confiance, qui nous laissent de plus en plus de volume, qui nous permettent d'avoir des offres intégrées. Donc ça, ça a beaucoup de valeur. Ça, c'est simplement pour parler de notre appartenance au groupe La Poste que j'avais pas évoqué auparavant. Et du coup, ta question, c'était vraiment sur la culture d'entreprise. Alors moi, au-delà du projet, ce qui m'a séduit chez Stuart immédiatement, ça paraît peut-être un peu naïf de dire ça, mais c'est les gens avec qui je travaille. Et je le dis en toute sincérité, et mes amis savent très bien à quel point je suis devenu ami avec des gens avec qui je travaille. Bon, déjà, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'on a vécu des moments très forts et des moments de doute qui sont, je pense, propres à toute start-up qui grossit vite et que, globalement, on a plutôt réussi. Et deux, en fait, quand je suis arrivé, moi, je me suis dit, je n'ai jamais travaillé avec des profils comme ça. Je suis totalement sur la même longueur d'onde qu'eux et j'ai trouvé, en fait, un juste équilibre entre un vrai niveau et une vraie exigence intellectuelle. Vraiment, chacun voulait toujours tirer le meilleur de lui-même dans son travail, avec des profils en plus qui me parlaient, parce que grosso modo, on avait tous fait avant soit du conseil en stratégie, soit de la banque d'affaires, soit des métiers comme ça. Et par contre, on s'était tous dit, non, on veut aller vers un projet qui, un, ait du sens pour nous, et deux, on voit le résultat de nos actions. Et du coup, je suis arrivé dans cette espèce de cocotte minute où toutes ces énergies-là grouillaient, et en plus avec des gens qui, sur le plan humain, sont juste des personnes incroyables. Moi aujourd'hui, j'ai une dizaine de collaborateurs ici qui font partie de mes amis, même de mes amis proches. Je suis parti en vacances avec eux. Je sais que ça fait un peu cliché. On se dit ouais, ça c'est vraiment la startup nation, etc. Je pense pas. Et il y a beaucoup d'éléments moi dans la startup nation que je trouve assez ridicule pour être honnête. Ce que j'aime bien chez Stuart, c'est que ça a à la fois la culture d'une startup et en même temps la culture du. Ça a aussi un aspect très sérieux, très rigoureux et très analytique. qui, je pense, équilibre en fait ce qui pourrait pencher du côté d'une culture seulement tech. Non pas que le tech ne soit pas rigoureux, c'est absolument pas ce que je veux dire. Mais non, absolument pas. Mais je sais pas si je m'exprime correctement, mais je trouve que ça en fait, je trouve que ça fait de cette boîte autre chose qu'une simple startup comme on peut voir sur la place. Et derrière, bah, il y a quand même une force qui est à l'œuvre. C'est la mission, et la mission qui pour le coup est partagée par tout le monde ici, quoi. Je connais pas une seule personne dans cette entreprise qui ne soit pas convaincue par la mission, et qui même dans ses agissements au quotidien soit pas alignée avec ça. Il y a un élément important quand on est une plateforme, c'est de connaître les profils des travailleurs qui, bah, justement, qui travaillent sur la plateforme.
C'est quoi leur profil justement?
Justement, donc, comment tu les connais? Ça a été aussi une partie de mon travail. Et en fait, on s'est dit qu'on allait les sonder tous les trimestres via une enquête. On a un tiers de la flotte active qui répond, donc c'est quand même assez représentatif. Et là, ça nous permet de faire une identification sur l'âge, sur ce qu'ils font à côté. Est-ce que ce sont des étudiants qui font ça pour chercher du complément de revenus par rapport à leur bourse, leur pension alimentaire, etc. Est-ce que ce sont des biactifs qui sont à côté soit salariés, soit déjà entrepreneurs et qui font ça pour compléter leurs revenus? Est-ce que ce sont des personnes qui n'avaient pas d'emploi avant de rejoindre la plateforme, qui en cherchent encore? Oui, non. Et du coup, en fait, avec ces enquêtes qu'on sort tous les trimestres, on peut avoir une véritable photographie, un vrai baromètre des coursiers en France sur la plateforme, et dans le même temps on va les interroger sur l'évaluation de certaines features de l'application, l'évaluation de comment se passe l'activité avec certains clients, leur avis sur la tarification en place et leur souhait d'évolution. On a une évolution de la tarification qui est sortie en juillet dernier et qui émanait de demandes qui ont été recueillies dans l'enquête. On les interroge aussi sur le statut d'indépendant, comment ils le perçoivent, s'ils avaient une baguette magique, qu'est-ce qu'ils pourraient demander à l'État ou à la ville sur tu vois la construction de pistes cyclables ou alors l'aménagement de voies. Ces enquêtes, elles couvrent vraiment tout ça.
Et concrètement, les conclusions de l'enquête, si tu peux en parler, c'est quoi? Quel est le profil d'un coursier Stuart? Quelles sont un peu ses revendications ou ce qui l'intéresse?
Alors, le profil d'un coursier Stuart,
qu'il n'y en a pas qu'un, mais...
Non, on a grosso modo trois profils qui cohabitent sur la plateforme. Le premier, c'est le profil étudiant. On a à peu près entre 45 et 50% d'étudiants sur la plateforme, d'accord? Donc là, en fait, il faut bien se dire pourquoi les étudiants travaillent sur les plateformes. Et là, si on réfléchit, en fait... Le job étudiant type, il y a encore 10 ans, c'était d'aller travailler 10 heures par semaine au fast-food. Enfin, en général, c'était le job le plus connu ou le plus réputé. Aujourd'hui, un étudiant qui va travailler 10 heures sur une plateforme, Stuart ou une autre, déjà en 10 heures, il y a de fortes chances pour qu'il gagne davantage que ce qu'il aurait gagné 10 heures dans un fast-food. Et en plus, il a la possibilité de se connecter absolument quand il veut. Je pense que c'est ça qui est la vraie promesse des plateformes et qui est hyper pratique pour les étudiants, c'est que tu peux te connecter quand tu veux, où tu le souhaites, pour le temps que tu souhaites, et t'es même libre d'accepter ou non les demandes de courses que tu reçois. Donc on a entre 45 et 50% d'étudiants. Ensuite, on a de nombreux profils de biactifs ou de slashers. Donc ça, c'est des personnes qui vont cumuler plusieurs activités, qui vont être à côté soit freelance dans un secteur qui n'a rien à voir avec la course, soit chef d'entreprise dans un secteur qui a à voir avec la course ou pas du tout, soit salarié. On a des employés de banque qui travaillent avec Stuart à côté, on a des intermittents du spectacle qui travaillent à côté avec Stuart, et le troisième profil, et ça représente à peu près 30% de l'effectif, et la part est de plus en plus importante, c'est les personnes sans emploi. Donc qui étaient en recherche d'emploi avant de rejoindre la plateforme qui en recherchent toujours ou pas. Et en fait, cette part-là, elle s'amplifie. C'est un constat qu'on fait. Et c'est aussi pour ça que la plateforme, à l'époque où Stuart est né, on travaillait avec 75% d'étudiants. Donc il n'y avait pas trop d'enjeux de développement professionnel, de choses comme ça, parce que on savait que c'était transitoire et que de toute façon, ils avaient des opportunités après. En revanche, quand on voit que de plus en plus de personnes qui était en dehors d'une situation d'emploi, travaille avec des plateformes, on se pose la question de notre responsabilité sociale, qui est assez évidente, et du rôle éventuellement de tremplin que les plateformes peuvent avoir. Et c'est pour ça que derrière, on essaie de construire un petit peu tous ces tracks que j'aime bien mettre sous un concept de Stuart Academy, c'est-à-dire tu rejoins une plateforme et sur le long terme, qu'est-ce que nous, on peut t'apporter ? Déjà, il y a des choses évidentes, hein, c'est du revenu sur du court terme, c'est le développement de ton sens du service avec la connexion avec les commerçants de ta ville. Mais les autres points, c'est on fait partie du groupe La Poste. Il y a des capillarités entre la course et des métiers du groupe La Poste. Donc moi, une grosse partie de mon travail aujourd'hui, c'est de travailler à la construction de passerelles pour les coursiers Stuart indépendants vers des métiers en CDI dans le groupe La Poste, que ce soit au courrier, mais même au réseau, à la banque postale, enfin sur des métiers vraiment différents. Donc là, je travaille à la fois sur la mobilité interne dans le groupe et en même temps avec le centre de formation des apprentis du groupe La Poste. Et d'ailleurs, demain, je suis à Marseille où je vais rencontrer le CFA du groupe La Poste pour le Sud-Est, pour justement mettre en valeur ces parcours et intensifier le nombre de candidats qui bénéficient de ces passerelles. Et l'autre point, c'est ce qu'on fait en matière de raccrochage académique, si j'ose dire, avec Open Classroom. Là, on a déjà deux pilotes qui marchent très bien, et je pense qu'on va de plus en plus se diriger vers ces formations-là.
S'agissant de ton évolution chez Stuart, donc on a dit que tu as commencé dans les Ops. Quel a été ton parcours depuis et quel poste t'occupe actuellement ? Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu quelle est ta fonction désormais ?
Ouais. Ben, en fait, je pense que mon évolution chez Stuart, elle a juste suivi logiquement ce qu'était Stuart. Et en fait, j'y réfléchis aussi parce que c'était une évolution qui n'était pas nécessairement évidente ou dictée depuis le début. Dans des entreprises comme ça, je pense que si tu veux rejoindre un projet ou rejoindre une entreprise ou autre, il faut être là où tu vas pouvoir le plus apporter par rapport au moment où l'entreprise en est dans son développement. Moi, en l'occurrence, à l'époque, la question se posait pas, c'était... J'avais fait des études à l'ESSEC, j'avais des expériences en conseil, j'allais très clairement pouvoir apporter dans un département opération sur la structuration des opérations, sur le recrutement d'une équipe, parce qu'on allait ouvrir plusieurs villes, on a recruté quand même une quinzaine de personnes en un an et demi, sur la structuration de l'équipe, sur la structuration des process et sur les ponts que j'allais pouvoir faire à la fois avec l'équipe data pour automatiser un certain nombre de processus, sur des décisions qu'on allait pouvoir prendre sur ce que Stuart faisait avec les coursiers en matière de revenus, en matière de communication, en matière de tout ça. Donc c'était vraiment là où on avait le plus besoin de moi et je me suis vraiment investi à fond. Et puis une fois qu'on a ouvert 5 villes, puis 10, puis 15, puis 20, on s'est rendu compte que on avait une structure d'équipe qui marchait bien, des processus qui étaient robustes. Et du coup, la question c'était qu'est-ce que je continue à faire dans cette équipe-là ? Et ce qu'on voyait, c'était que il y avait une chose de plus en plus, il y avait un élément de plus en plus important, c'était le nombre de coursiers qu'on avait sur la plateforme, et surtout ce qui commençait à se passer avec d'autres plateformes, des choses qui ont un petit peu fait la une de l'actualité. Et nous, on s'est dit bon, on a toujours eu une vraie proximité et de vrais engagements par rapport aux coursiers. Maintenant, il faut amener la chose au next level, si j'ose dire. Et ça, c'est essentiellement passé par les partenariats. On s'est dit, il y a plusieurs priorités. Les priorités, ça va être la sécurité des coursiers, le fait qu'ils soient correctement couverts, qu'est-ce qu'on peut faire en matière de développement professionnel et d'inclusion sociale pour eux. Du coup, je suis plutôt monté sur ces problématiques-là. Donc en matière de sécurité et de couverture, depuis le premier jour, ils sont couverts par une responsabilité civile professionnelle qu'on a en partenariat avec AXA et que Stuart finance à 100%. En 2018, on a rajouté à ça une garantie santé et prévoyance pour qu'ils soient également couverts en cas d'accident du travail. Et là, on a une nouvelle assurance qui couvre, qui permet le versement d'un capital au coursier en cas d'agression. Donc ça, c'est des éléments importants. Et sur le développement professionnel, je fais un certain nombre de choses, notamment via des partenariats avec l'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI, qui permet au coursier de bénéficier de microcrédits, soit pour financer un vélo électrique, par exemple, pour moins de pénibilité, soit pour financer un ordinateur qui va leur permettre juste de travailler, pourquoi pas de lancer une autre entreprise dans un secteur qui n'aura rien à voir. En parallèle, j'ai monté un partenariat avec Open Classroom, qui est une école en ligne que tu connais peut-être et qui est une entreprise à mission. Ils ont un objectif de retour à l'emploi de 1 million de personnes en France d'ici 2025. Et ils s'intéressent à la problématique des indépendants. Donc nous, la première des choses qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné un accès gratuit à tout le catalogue de cours premium. Et la deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'Open Classroom nous a dit « On aime beaucoup votre façon de travailler, on aimerait construire quelque chose spécifiquement avec votre plateforme. » Et là, on a lancé le dispositif Job Études, qu'on lance en région Nouvelle-Aquitaine avec le partenariat et le financement du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, et qui consiste à cibler 100 profils de jeunes décrocheurs scolaires dans la région et leur permettre de se former sur une formation diplômante de développeur web sur Open Classroom en parallèle d'une activité rémunératrice sur la plateforme Stuart. Donc en fait, y a toutes ces choses-là. Quand on a commencé à ouvrir des villes aussi, des petites et moyennes villes, je pense par exemple à Dunkerque, ville dans laquelle on a déployé le service en avril dernier, là on s'est rendu compte que notre sourcing de coursiers traditionnel ne fonctionnait plus. On n'arrivait pas à faire de l'acquisition de coursiers en ligne, sur les réseaux sociaux comme on pouvait faire traditionnellement, et vraiment on n'arrivait pas à trouver la solution, quoi. Et là, on s'est un petit peu posé, on s'est dit, bon, en fait sur ces territoires, qui sont les personnes qui peuvent chercher des opportunités, et est-ce qu'il n'y a pas des organismes où ces personnes-là peuvent être suivies. Et du coup, j'ai pris mon petit sac à dos et je suis parti à un forum de l'emploi à Dunkerque, le DKJob. J'ai été hyper bien accueilli et là, j'ai fait la rencontre, et ça j'en parle parce que ça a été structurant pour la suite, j'ai fait la rencontre d'une association avec des personnes passionnées. Cette association s'appelle Entreprendre Ensemble Dunkerque et elle regroupe la mission locale, l'école de la deuxième chance et en fait tous les organismes qui s'occupent de l'emploi et de l'insertion. Et en fait, je me suis dit, c'est devenu clair d'un seul coup en me disant, mais oui, en fait, il y a tous ces acteurs-là sur les territoires qui ont des personnes qui recherchent des opportunités, qui sont éloignées de l'emploi depuis longtemps. Nous, on est une solution parfaite pour ces personnes-là. Et du coup, on a co-créé un événement, on a co-organisé un événement. Ils ont 40 personnes qui sont venues, qui étaient suivies par la mission locale. Pour eux, c'était un record absolu en termes de mobilisation de personnes. Et le jour même, 14 personnes suivies par la mission locale sont entrées sur la plateforme. Donc, c'est assez massif quand même à l'échelle d'un territoire. Et là, on s'est dit, OK, il y a quelque chose qui marche. Et en plus, quand on arrive quelque part, on fait de la création d'emplois nets avec des personnes qui cherchaient vraiment des opportunités. Et du coup, charge à nous encore plus de développer tous les parcours qu'on peut permettre par la suite.
D'accord, très clair. Donc, pour terminer, ton travail aujourd'hui, c'est de diriger les affaires publiques et les partenariats chez Stuart et donc de structurer l'environnement finalement autour des coursiers. C'est un travail qui est assez impactant, même si le mot dérive de l'anglais est parfois un petit peu utilisé abusément. Comment, pour terminer le podcast, tu définirais l'impact ? T'es un peu en toile de fond, on en a parlé, mais quelle serait ta définition de l'impact ?
L'impact, je dirais que derrière impact, je mets le mot beaucoup, beaucoup ou nombreux. Je pense que l'impact, le vrai, c'est celui que tu as sur de nombreuses personnes ou de nombreuses villes ou autres. Et c'est de toute façon ce qui m'a toujours animé, c'est de me dire, rejoindre des structures où demain, ton impact pourra être vraiment sur des milliers de personnes. Et je pense que c'est ce qu'il faut se marteler. Et pour moi, l'impact, donc c'est qui a toujours vocation à ce que ce soit dupliqué sur un grand nombre. Et deux, derrière l'impact, pour moi, il y a l'honnêteté intellectuelle. Ça paraît peut-être un peu galvaudé de dire ça, mais en fait, on voit beaucoup de boîtes ou de personnes qui essaient de se construire un impact, mais c'est purement artificiel, c'est de la communication, quoi. Moi, ce que je préfère faire valoir, c'est la mise en place des actions avant la communication.
Est-ce qu'il y aurait un dernier conseil ou un dernier message que tu aimerais adresser à ceux qui écouteraient le podcast, qu'ils soient étudiants ou même en train de travailler?
Ouais, moi le conseil que j'ai à donner, c'est de vraiment pas se brider, parce que si je m'étais bridé, je serais jamais là où je suis aujourd'hui. Déjà, j'aurais jamais postulé chez Stuart en première instance, et je serais jamais aujourd'hui responsable des affaires publiques pour la France, parce que c'est un poste qui n'a juste rien à voir sur le papier avec mon poste qui était d'entrée aux opérations chez Stuart. Et du coup, il faut toujours déjà ne jamais se brider et toujours être en veille sur les signaux faibles et sur ce vers quoi on veut aller. Donc, il y a plein de choses. Il y a ce qui se passe dans l'environnement, ce qui se passe à plusieurs égards, et il y a un petit peu la voix intérieure qu'on a et qui nous dit toujours « t'as découvert ça, je suis sûr que tu seras encore meilleur là-dedans » et il y a quelque chose en toi qui te dit « pas besoin de faire comme tout le monde, dirige-toi vers ça ». Moi j'aurais pu évoluer de façon verticale en opération, mais je me suis dit non, en vérité, le combat de demain, c'est les affaires publiques et c'est les relations avec les pouvoirs publics en province, partout où on est. Pour pouvoir, un, multiplier notre business, pour servir des réalités très business, et deux, c'est la sécurisation de notre modèle en apportant de la pérennité et de la sécurité, notamment au statut d'indépendant. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, c'est pas grave, c'est pas une évolution logique d'aller en public affairs, mais pourtant, c'est là où je m'épanouirai le plus, c'est là où je croirai le plus dans ce que je fais, et en plus, c'est ce qui sera le plus important pour mon entreprise aujourd'hui.
Super. Bah, merci beaucoup Victor d'avoir pris du temps pour échanger sur ton expérience. Je te souhaite beaucoup de succès chez Stuart et puis je te dis à bientôt.
Merci beaucoup Maxime, à bientôt.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, à suivre la page Instagram ou LinkedIn de Sonar et surtout à en parler autour de toi. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître Sonar. Bon courage en ces temps difficiles de confinement. Et à très vite pour un nouvel épisode.